On va s'intéresser ce soir à un événement qui s'est produit lors de la crucifixion de Jésus. Donc, on a fêté sa résurrection, mais je pense qu'on peut encore parler et on parlera en fait toujours de sa crucifixion qui était sa grande victoire. Donc, il semble effectivement que la mort physique en fait des personnes qui étaient donc crucifiées se produisait par asphyxie. Lorsqu'ils étaient plus capables de, tellement ils étaient épuisés, plus capables de se redresser sur leurs jambes. Alors tout le poids de leur corps donc pesait sur leurs bras et ça écrasait leur cage thoracique. Ils n'arrivaient plus à respirer et mouraient étouffés. Et ce qui était terrible, c'est que pour accélérer la mort des crucifiés, eh bien apparemment parfois on leur brisait les jambes afin qu'ils puissent plus se relever, donc ils mouraient étouffés. Et ainsi les Juifs donc avaient obtenu de Pilate qu'il fasse ça et qu'il fasse ainsi mourir les trois crucifiés, qu'ils accélèrent leur mort en leur brisant leurs jambes. Et il voulait en fait faire ça parce que c'était contraire à la loi juive que pendant le sabbat il y ait des corps donc en fait ainsi exposés. Et ça correspondait à un article de la loi juive qu'on trouve dans Deutéronome 21-22. Je lis pour vous. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Donc c'était effectivement pour cette raison que les Juifs ont demandé, c'est ce que nous lisons dans, nous allons voir dans Jean 19, ils ont demandé à Pilate de briser les jambes, en fait, des trois crucifiés. Et donc, nous allons donc prendre Jean 19, Jean 19. Nous avons nos Bibles en Jean 19 et je vais lire à partir du verset 32. Donc, Jean 19, à partir du verset 32. Après que les Juifs aient fait cette demande à Pilate, que Pilate ait accepté. Donc, Jean 19, verset 32. Les soldats vinrent donc. Et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, ce que nous voulons faire ce soir, c'est nous intéresser à ces deux citations de la parole qui ont été faites par Jean, donc citations de l'Ancien Testament. Et donc, on va rechercher leur origine et faire le lien avec le reste des crucifixions pour comprendre leur sens. La première citation, donc, qui est aucun de ces os ne sera brisé, elle se trouve en Exode 12. Et donc, je vais aussi vous demander d'ouvrir vos Bibles en Exode 12, et on va lire une partie en fait de ce long chapitre, donc plusieurs versets tirés du chapitre. Donc Exode 12, c'est la fin, c'est la toute fin en fait des plaies d'Égypte, des plaies que Dieu a envoyées sur le peuple d'Égypte, c'est donc la dernière, Dieu s'apprête à envoyer la dernière plaie, et donc il donne, à cet égard, il donne ses instructions à Moïse. Donc Exode 12, je lis à partir, je vais lire donc le verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ensuite, au verset 5, Exode 12, verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On saute maintenant au verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et nous regardons ensuite le verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Et on saute au verset 46. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Donc ce petit détail dans tout le cérémoniel, vous ne briserez aucun os, c'est en quelque sorte l'indice qui nous permet de faire le lien entre la crucifixion de Jésus et ce qui s'est produit 5500 ans plus tôt en Égypte. Ce qui est décrit en Exode 12, c'est la première célébration de la Pâque juive. Le mot en français qui est rendu « Pâque », en fait, il vient directement, c'est une transformation du mot, une translittération en quelque sorte du mot hébreu qui désigne la Pâque juive, qui est le mot « Pessa », donc qui désigne cette fête. Donc ce mot « Pessa », il est passé en grec, puis ensuite il est passé en latin, et ensuite il est arrivé en français, mais donc c'est le même mot. Le mot « Pessa », en hébreu, il veut dire « passer par-dessus ». Passer par-dessus, et donc vous le trouvez au verset 23, où il est dit « l'Éternel passera par-dessus la porte ». Donc en réalité, la fête de la Pâque juive, littéralement, elle pourrait s'appeler la fête de passe par-dessus. Ça paraît peut-être rigolo à entendre en français, mais les Anglais, quand ils parlent de la Pâque juive, ils appellent ça Passover. Donc là, la fête de passe par-dessus. Et l'Éternel, donc, avait envoyé le destructeur tuer tous les premiers-nés d'Égypte. C'était donc la dernière des plaies. Mais il avait décidé de protéger son peuple. Et afin d'identifier les maisons de son peuple, il leur avait donné ce signe du sang de l'agneau qu'il devait mettre sur les linteaux de la porte. Et quand l'Éternel voit le sang, il passe par-dessus la porte. Et son peuple en Égypte se voit épargner le châtiment. En d'autres termes, le sang de l'agneau épargne le peuple de Dieu de la destruction. Le sang de l'agneau épargne le peuple de Dieu de la destruction. Et la phrase que je viens de vous prononcer devrait vous mettre la puce à l'oreille. L'évangéliste Jean est le seul des évangélistes à appeler Jésus l'agneau de Dieu, mais il le fait souvent, notamment, nous l'avons vu dans l'Apocalypse. C'est pour ça que j'ai lu ce chapitre tout à l'heure. Mais il le fait pour la première fois d'une façon magnifique dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, et où il rapporte les propos de Jean le Baptiste, qui dit ceci, Jésus, donc Jean le Baptiste vit Jésus, qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jean 1, 29. Et donc, ensuite, dans son évangile, par cette citation de Exode 12, 46, l'évangéliste Jean fait à nouveau une référence à l'agneau, il le fait de façon implicite, en établissant un lien entre Jésus qui meurt sur la croix et l'agneau immolé à la Pâque juive, dont le sang protégeait le peuple d'Israël. Et on peut que s'émerveiller du sens du détail de Dieu, dans la façon dont il a finalement organisé toute chose et aussi rédigé son écriture. Parce que les commentateurs remarquent qu'il n'y avait pas vraiment de raison pour que les os de l'agneau ne soient pas brisés à la fête juive. Il n'y avait pas de raison, en tout cas liée à la célébration elle-même, ça n'avait pas un sens particulier. Et puis ensuite, il y a aussi cette, quand on regarde aussi cette autre affaire avec les deux crucifiés, le fait qu'il faut les faire mourir à cause du sabbat, puis aussi le fait que les soldats ne brisent pas les jambes de Jésus, il y a toute cette mise en scène en quelque sorte, cette organisation. Et c'est comme si Dieu disait, vous voyez, cet indice assez incompréhensible que j'ai laissé dans le rituel de la Pâque, qui était institué 1500 ans plus tôt, je l'ai mis là juste pour que vous compreniez que Jésus, crucifié, est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a mis ce petit indice pour faire le lien entre Jésus crucifié et l'agneau de Dieu qui protège le peuple du Dieu de la destruction. Et celui sur qui Dieu voit le sang, est épargné, le sang de l'agneau est épargné des destructions. Il y a encore une autre chose évidente qui vient confirmer cette analyse, qui est une chose magnifique, c'est que, et c'est évident, Jésus a choisi de mourir à la Pâque. Il aurait pu parfaitement mourir à une autre fête juive, il aurait pu mourir à Yom Kippour, par exemple, la fête de l'expiation, ça aurait été bien, ça aurait eu un vrai sens aussi qu'il meure à la fête de l'expiation, mais non, il a décidé de mourir à Pâques, s'il voulait bien ancrer dans nos esprits, qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y a un deuxième indice dans le passage, et une deuxième citation de l'Ancien Testament. Donc cette citation, c'est « Ils verront celui qui les ont percés ». Cette phrase, elle est tirée du livre du prophète Zacharie, Donc vous pouvez d'ailleurs ouvrir le livre au chapitre 12, le prophète Zacharie qui donc dans le chapitre 12 décrit de façon prophétique la conversion du peuple d'Israël. Donc on lit en Zacharie 12 au verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qui les ont percés. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et ensuite, juste après, chapitre 13, verset 1, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. J'imagine que Zacharie lui-même, quand il a écrit ce texte, aussi comme beaucoup d'autres prophètes, d'ailleurs, c'est Pierre, il fait allusion dans la première épître, dans sa première épître, il devait être perplexe en écrivant ce passage que l'Esprit lui inspirait. Il devait se demander quel était ce personnage, celui qu'ils ont percé, vers lequel le peuple d'Israël allait tourner ses regards. Mais on a la réponse à la crucifixion. Encore une fois, longtemps après, on a la réponse. C'est Jésus qui fut percé avec cette lance. Là aussi, ils n'ont pas percé avec la lance les autres. Ils leur ont brisé les jambes, mais lui, ils lui ont percé avec la lance. Et il était donc, il est devenu celui qu'ils ont percé. Et Zacharie, en fait, décrit le repentir du peuple d'Israël et aussi la source ouverte pour la purification des péchés. La source ouverte pour la purification des péchés. J'ai lu tout à l'heure ce célèbre cantique de William Cooper. Il est une source alimentée par le sang tiré des veines d'Emmanuel, et les pécheurs plongés sous son flot perdent toutes les taches de leur péché. Et la lance, en perçant Jésus, elle a fait jaillir du sang de son côté, et ce sang nous purifie de tous nos péchés. Alors je vais terminer par une seule application. Jean nous dit qu'il a écrit ces choses, il dit ça au verset 35 de Jean 19, il nous dit qu'il a écrit ces choses afin que nous croyions aussi. Et en 20:31, Jean 20:31, il réitère cette affirmation et il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais avec ces deux citations de l'Ancien, Jean a aussi illustré comment se produit ce salut qui nous est promis par donc la vie en son nom, qui nous est promis par la foi. C'est comme s'il nous disait, vous êtes sauvés parce que quand Dieu voit le sang de Christ sur vous, il passe par-dessus. Vous ne venez pas en jugement, il passe par-dessus. Comme il est passé par-dessus les maisons d'Israël, il passe par-dessus, nous ne venons pas en jugement. Mais Dieu ne se contente pas de fermer les yeux sur notre péché de façon presque injuste. Non, il le lave, car Jean nous dit aussi qu'il a ouvert une source pour le péché et pour l'impureté. Cette source, comme dit l'auteur du cantique, c'est le sang de Jésus. Alors, ce n'est pas évidemment le sang littéral de Jésus où on devrait se baigner dans du sang, mais c'est le sang comme étant l'image de sa vie qu'il donne à notre place pour payer le prix de nos péchés. Et qu'est-ce que nous devons en tirer comme enseignement? Pour être protégés du destructeur, les Israélites n'ont rien eu à faire d'autre que de se blottir dans leur maison, à l'abri du sang de l'agneau qui était sur les linteaux. Il fallait simplement qu'ils aient confiance dans le sang. Rien d'autre que le fait qu'ils aient eu confiance dans le sang. C'est vrai que si quelqu'un n'avait pas eu confiance, c'était dit tout ça, c'est des histoires, et qu'il était sorti de la maison, il aurait été tué par le destructeur. Mais ceux qui étaient à l'abri du sang étaient sauvés. Alors, je terminerai là-dessus. Faisons confiance au sang de l'agneau et à lui seul pour nous protéger du destructeur et nous laver de nos péchés. Et quand le Seigneur Tout-Puissant, au jour du jugement, verra sur nous le sang, il passera par-dessus et nous ne viendrons pas en jugement. Voilà. Prions. Seigneur, merci pour un si grand salut. Merci pour un salut si simple aussi. Merci pour la beauté de ta parole. Merci pour la façon magnifique dont tu as organisé tous les événements. Seigneur, maintenant, ma simple prière est que tu donnes à chacun d'entre nous de mettre entièrement notre confiance dans le sang de l'agneau et ensuite de nous blottir dans la maison à la protection de ce sang et de garder cette confiance jusqu'à la fin. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.